Maintenant, aborder la deuxième partie de cette matinée qui va être consacrée à l'aspect à la fois épistémologique et déontologique en fait de l'enquête orale. Donc nous allons évoquer cet aspect avec Jean-Sébastien Heidelimann. Vous êtes sociologue, vous êtes rattaché à l'Université de Lille 3 et membre du Centre de recherche Individus, Épreuves et Société. Et vous allez maintenant revenir sur le positionnement éthique du chercheur, enfin en tout cas qu'un chercheur est amené à adopter lors des enquêtes orales, en fait à travers l'angle de vos recherches qui porte notamment sur le handicap. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci. Donc, merci de m'avoir invité à cette journée, d'autant que, comme vous allez le voir, mon point de vue va être un petit peu décalé. Je vais parler, par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'ici, hein, je vais parler en tant que sociologue. Je ne fais pas partie du groupe de recherche qui vous a été présenté jusqu'à maintenant. Et je vais vous parler, comme l'indique le titre de mon intervention, du point de vue du sociologue sur la déontologie de l'enquête orale. Alors, comme toujours, hein, quand on travaille de manière un peu interdisciplinaire, on est obligé de faire un peu des traductions. Donc, on a mis sur pied ce titre, le sociologue et la déontologie de l'enquête orale. En sociologie, on ne parle pas d'enquête orale, hein, quasiment jamais. On parle plutôt d'enquête ethnographique ou d'enquête qualitative. Mais on va essayer justement aujourd'hui de faire ces ajustements, ces traductions pour essayer de porter le débat sur un front interdisciplinaire. Sur ces questions de déontologie, ce que je voudrais essayer de montrer, et on pourra peut-être en discuter ensuite, c'est que les questions de déontologie, pour moi, doivent être pensées en relation avec des questions scientifiques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une parenthèse à un moment donné et de parler de questions éthiques et déontologiques, mais de voir que c'est des questions qu'on a intérêt à se poser tout au long de la recherche et qui sont vraiment liées à des questions aussi d'efficacité scientifique. Je ne vais pas parler de toutes les questions déontologiques, ça serait beaucoup trop long. Je vais me concentrer essentiellement sur une question qui me semble importante et qui permet d'aborder pas mal d'enjeux, qui est la question de l'anonymisation ou de la non-anonymisation en sciences sociales. Mon propos s'inspire assez librement du chapitre d'un ouvrage qui s'appelle « Politique de l'enquête » et le chapitre s'appelait « Au-delà de la déontologie, anonymat et confidentialité dans le travail ethnographique », un chapitre que j'avais coécrit avec Aude Béliard qui n'est pas présente aujourd'hui. Mais je vais m'en éloigner un peu aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup parler de mes travaux sur le handicap et la famille puisque ce serait un petit peu éloigné du thème d'aujourd'hui. Mais je vais essayer d'en tirer des résultats, des conclusions qui me semblent intéressantes à discuter avec ce qu'on vous a présenté et ce qui va encore être présenté. Alors, je vais partir, pour réfléchir à tout ça, de deux positions, un peu de principes que je pose au fondement de mon intervention. La première, que j'ai déjà évoquée, c'est que les questions déontologiques ne doivent pas être dissociées de questions d'efficacité scientifique. La déontologie, on peut dire que c'est un ensemble de règles professionnelles. Et l'idée que je vais porter ici, c'est que ces règles, elles doivent permettre de mieux faire son travail et... Le mot « mieux » ici, il faut l'entendre à la fois au sens éthique et scientifique. La deuxième position que je vais tenir pendant tout l'exposé, c'est qu'il n'y a pas sur ces questions de solution miracle ou même de solution standard. Et ce qui me semble important à mettre en avant, c'est que plus les chercheurs discutent entre eux collectivement de ces questions-là, et notamment au-delà des cadres disciplinaires, et moins ils vont être dans l'embarras par rapport à ces questions, puisque ce qui se passe en général, c'est que tout le monde se pose ces questions, hein, dans les couloirs des laboratoires de sociologie, par exemple. On n'arrête pas de parler des problèmes d'anonymat, de confidentialité, de retour aux enquêtés, comment faire, mais ces questions sont assez peu abordés collectivement, ce qui fait que chacun se débrouille un petit peu à sa manière, trouve des solutions sans savoir si c'est des solutions vraiment légitimes ou vraiment efficaces. Et il me semble que plus on arrive à constituer ces questions comme des enjeux collectifs, et plus c'est facile pour les chercheurs individuels, même si on ne va pas dire, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, puisque, comme je vais essayer de vous le montrer, on est obligé de s'adapter un peu au cas par cas. Alors, je vais commencer par situer la position qui me semble tenable entre deux écueils qu'il faut au contraire éviter. Alors, pour aller vite, ces deux écueils, ce serait d'une part une position qui consisterait à asservir l'éthique à la science, et puis la position inverse, asservir la science à l'éthique. Il me semble que pendant assez longtemps, on était plutôt assez proche du premier écueil, asservir l'éthique à la science, puisque pendant très longtemps, les chercheurs, que ce soit les anthropologues, les sociologues et les historiens, se sont assez peu préoccupés de ces questions d'éthique, en considérant que, d'une part, les objectifs de leur travail étaient plus importants que les questions éthiques qui pouvaient se poser par rapport aux individus dont on utilisait les propos. D'autre part, ils considéraient, souvent à juste titre, qu'il y avait un fossé relativement important entre les chercheurs et les personnes sur qui les enquêtes étaient menées, et que ces derniers avaient très peu de chances de lire les résultats de la recherche. Pour pas mal de questions, du fait d'un grand nombre d'évolutions sociales, historiques, le fossé entre les chercheurs et les individus sur lesquels les chercheurs travaillent s'est amenuisé, et de plus en plus, les chercheurs travaillent, comme on dit souvent, sur du proche, donc que ce soit du proche socialement, géographiquement, chronologiquement. Et de plus en plus, les chercheurs ont en tête que, d'une part, c'est bien si les personnes qui ont participé à une enquête peuvent avoir un retour, et d'autre part, ils sont confrontés à une demande croissante de retour de la part des personnes sur lesquelles ils travaillent. Alors, tous ces changements sur lesquels je ne reviens pas en détail ont entraîné beaucoup de réactions différentes. Alors, chez les chercheurs, une prise en compte plus grande de ces questions, parfois un embarras plus grand aussi. Et puis, au niveau institutionnel, la création d'un certain nombre de dispositifs, de commissions qui viennent un peu contrôler le travail scientifique. Alors, c'est le cas notamment des comités d'éthique qui sont de plus en plus nombreux, qui ont souvent été créés d'abord dans les sciences médicales et qui s'imposent de plus en plus aussi aux sciences sociales. Donc là aussi, je vais très vite, mais dans la pratique, le travail de ces commissions, de ces comités d'éthique est souvent perçu par les chercheurs, notamment aux sciences sociales, comme un obstacle à la recherche. Alors, pour prendre quelques exemples très connus, hein, la CNIL, par exemple, pour plutôt les travaux statistiques, ou alors, dans le domaine de la santé, les CPP, comités de protection des personnes. Ces comités imposent des règles aux chercheurs et, dans les faits, étirent le temps de mise en place des enquêtes. Alors, si on associe ça avec le fait que la recherche se fait de plus en plus sur financement, ça pose des problèmes très importants. Hein. Il n'est pas rare qu'il y ait, par exemple, une équipe de chercheurs qui négocie un financement. Ce financement est accordé pour un an, et un an, c'est trop court pour obtenir l'accord de tous les comités d'éthique dont il faut pouvoir avoir l'accord. Alors, en particulier, si, par exemple, on travaille en sociologie de la santé, en relation avec un hôpital, par exemple, c'est des choses que j'ai vues. Donc, un petit point pour préciser tout ça, c'est que ces difficultés, elles ne se posent pas avec la même acuité pour tous les chercheurs. Ça dépend de la discipline, ça dépend des objets qu'on a choisis, ça dépend des méthodes d'enquête. Alors, je voulais juste insister sur un élément parmi tout ça, c'est que il y a des domaines, alors je vais prendre l'exemple de la sociologie puisque c'est ça que je connais, il y a des domaines où ces questions sont réglées assez largement en amont. Par exemple, si on fait de la sociologie statistique, ben les méthodes statistiques ont une telle légitimité que ça va passer très facilement justement devant les comités d'éthique, pour peu qu'on respecte quelques grandes règles. On ne va pas s'intéresser de près aux histoires individuelles, on va faire oublier l'individu derrière des populations, des résultats généraux, et ça ne va pas poser de problème. En revanche, quand on adopte d'autres postures de recherche, en particulier quand on fait de l'ethnographie et que justement on veut mettre en valeur les histoires individuelles, les spécificités individuelles, etc., on va être d'autant plus confronté à ces problèmes éthiques et on va avoir du mal à mettre en œuvre sa recherche. Donc il y a une sorte de paradoxe qui est que quand on veut redonner un peu la parole aux individus, quand on veut insister sur le point de vue des individus, c'est là qu'on va être énormément confronté à ce problème du respect aussi de la parole individuelle et des individus, et qu'on va se trouver, par exemple, confronté à des problèmes au niveau de l'anonymisation. Alors, pour en dire quelques mots de manière plus précise, il me semble que sur ces questions d'anonymisation, il faut toujours avoir en tête, en fait, non pas un problème, mais deux. Le problème d'un côté de l'anonymat, du respect de l'anonymat, et de l'autre côté, le problème du respect de la confidentialité. Alors, pour aller vite, on peut dire que le respect de l'anonymat, c'est garantir à des individus auprès desquels on a enquêté que des lecteurs extérieurs à l'enquête ne puissent pas, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés, les identifier. Le problème de la confidentialité, il est un peu différent. La garantie de confidentialité, en général, on la pose en disant aux gens avec qui on travaille, non seulement on changera votre nom, mais je ne vais pas répéter ce que vous me dites à d'autres. Et donc, c'est le problème de garantir une confidentialité aux personnes qu'on a interrogées par rapport à des gens qui les connaissent ou à des gens qui ont participé à l'enquête. Et ce problème-là, il y a des cas où il est très embêtant, parce que donner un pseudonyme, par exemple, ce qui est le principe de base de l'anonymisation, ça ne suffit absolument pas. Les proches, les gens qui ont participé à l'enquête vont quand même reconnaître la personne, et peut-être que cette personne n'a pas envie que tout ce qu'elle a raconté en entretien soit entendu par d'autres. Alors, pour revenir un peu à une des positions de principe que je posais tout à l'heure, il me semble que ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire en sorte que les impératifs éthiques ne soient plus vus seulement comme des obstacles à la poursuite des recherches, mais puissent être transformés en une contrainte qui soit aussi productive, qui soit aussi un petit peu stimulante. Et il me semble que c'est possible. Par exemple, sur ces questions de méthodes d'anonymisation et de confidentialité, on se rend compte que si on prend en compte ces impératifs, on va être obligé, dans la manière dont on mène l'enquête et surtout dans la manière dont on écrit les résultats, de se poser davantage de questions scientifiques. Par exemple, quand on est en train de raconter le parcours d'une personne ou de reprendre des éléments d'un entretien qu'on a eu avec elle, les éléments les plus identifiants, les plus gênants, les plus délicats pour la personne, on peut avoir intérêt à se poser la question, est-ce que c'est scientifiquement utile de les écrire ? Parce qu'on peut avoir cette tendance, notamment en ethnographie, de vouloir donner des détails parce que ça donne un peu de la chair au récit, parce qu'on se représente plus facilement les personnes, parce qu'on peut aussi être sensible à un côté un petit peu spectaculaire. Si on se pose cette question de quels sont les éléments qui permettent vraiment de faire avancer le raisonnement sociologique, il y a un certain nombre de problèmes d'anonymisation qui tombent, parce qu'on se rend compte que tel élément problématique, on peut s'en passer, ou alors, c'est une position plus forte, on peut le modifier ou le dire autrement. Donc ça c'est un point qu'on avait proposé dans l'article, c'est de dire qu'il y a un grand nombre d'éléments, d'informations qu'on peut transformer sans modifier les résultats auxquels on veut aboutir. Bien sûr, ça nécessite de travailler, de produire ces résultats à partir du matériau dans un premier temps, et après, dans un deuxième temps, de réfléchir à quels sont les équivalents qui permettrait de transformer un peu les cas. Et cette recherche d'équivalent, c'est une recherche qui renvoie à des choses fondamentales en sociologie. c'est-à-dire de savoir quels sont, dans une trajectoire, des métiers qui peuvent avoir le même rôle, ou même des questions qui peuvent paraître triviales, mais qui sont en fait importantes. Quand on transforme des prénoms, qu'est-ce que c'est un prénom équivalent ? On sait qu'on ne donne pas les prénoms de la même façon selon les milieux sociaux, selon les époques. Donc voilà, tout ça, ça amène à se poser plein de questions de qu'est-ce qu'on veut montrer et qu'est-ce qui est plus ou moins équivalent dans la réalité sociale. Ça veut dire aussi que sur ces questions-là, il peut être intéressant de demander l'avis des personnes qu'on a interrogées, non pas pour se plier forcément à ce qu'elles demandent, mais parce que le fait, par exemple, de faire relire un entretien ou quelque chose qu'on compte publier à une personne qu'on a enquêtée, ça peut amener ces personnes à mettre le doigt sur ce qui les gêne, et c'est souvent pas ce que le chercheur avait prévu. C'est-à-dire que ça peut être, voilà, j'ai des cas en tête où c'est le prénom qu'on a choisi pour anonymiser qui semble violent pour la personne. Et en fait, on s'en fiche, on aurait très bien pu en choisir un autre, alors voilà, avec des questions d'équivalence, mais du coup, on peut prendre ça en compte. Ou alors le fait de raconter tel événement dans la trajectoire est perçu comme violent. Bon, donc, on peut écouter le retour que les gens ont à faire. Alors, c'est aussi intéressant parce que parfois, ça relance la discussion, ça fait comme un deuxième entretien à ces situations de retour. Encore une fois, il ne s'agit pas de forcément se plier à ce que proposent les gens, mais ça fait réfléchir différemment à ce qu'on veut vraiment montrer, ce sur quoi on ne veut pas céder, ce sur quoi, au contraire, on peut céder. Alors, le point suivant, c'est, pour en venir encore plus précisément à ces questions d'anonymisation et de désanonymisation, l'idée que imposer des règles systématiques, un petit peu comme le font les comités d'éthique, c'est quelque chose qui ne marche pas parce que, en cette matière, en matière de questions éthiques, il faut vraiment essayer de raisonner au cas par cas. Alors, je vais prendre un exemple important pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la question de la non-anonymisation. Bien évidemment, en sociologie, on est presque toujours d'accord avec le principe que il existe des cas, même si la pratique générale c'est d'anonymiser, où on n'a pas besoin d'anonymiser. Cela dit, c'est une question compliquée qui pose pas mal de problèmes, et à cette question-là, on ne peut pas répondre de façon standard. Donc, il me semble que la réponse standard qui consiste à dire « il faut toujours anonymiser », elle n'a pas vraiment de sens. Ça arrive souvent que, par exemple, des personnes demandent à ne pas être anonymisées. On peut les entendre. En revanche, il me semble que ce n'est pas non plus une solution de dire « on demande à la personne et c'est elle qui choisit ». Alors, je vais essayer de détailler ça. Bon, il y a un sens où, pour le coup, ça me semble quand même important de suivre ce que disent les personnes, c'est quand elles souhaitent être anonymisées. À ce moment-là, bon, il me semble qu'il n'y a pas de raison de refuser ça. La priorité, c'est de protéger ces enquêtés et de répondre à ce genre de demandes. En revanche, quand les personnes demandent à ne pas être anonymisées, ça peut poser des problèmes. Je vais en évoquer deux. Le premier, c'est qu'il peut y avoir non pas des problèmes d'anonymat, mais de confidentialité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on désanonymise une personne, de fait, ça désanonymise d'autres personnes de l'enquête ou des institutions par lesquelles la personne est passée. Et ça peut poser des problèmes, ça peut avoir, si on veut le dire rapidement, des dommages collatéraux. Donc, il faut toujours penser à cette question-là. Un individu, c'est aussi un individu qui est pris dans des configurations. Désanonymiser un individu, ça a des effets sur l'entourage. Deuxième point, ça peut poser des problèmes par rapport à ces personnes elles-mêmes pour une raison importante, c'est que quand on commence à faire une enquête, quand on décide de faire des entretiens, on passe en quelque sorte, hein, pas de manière explicite en général, mais une sorte de pacte d'enquête de comment les uns et les autres vont se comporter. Et il me semble qu'il y a un élément, une caractéristique importante de ce pacte d'enquête, c'est qu'il reste toujours très flou, parce qu'on ne sait jamais exactement ce qu'on va faire, on ne sait jamais exactement ce qu'on veut montrer, d'une part, du point de vue du chercheur, et la personne qu'on interroge, auprès de laquelle on enquête, ne sait pas non plus très bien ce qu'on va faire de ce qu'elle va livrer. Donc c'est une question vraiment qui est indécidable. On ne peut pas se dire, bon bah, il suffit de d'écrire très précisément à l'avance ce qu'on va montrer, ce qu'on va faire. Bah non, justement, on ne peut pas faire ça. C'est le principe de ce genre d'enquête. Et donc, une personne qui dit au départ qu'elle souhaite ne pas être anonymisée, hein, je ne sais pas, une expression qui revient très souvent, c'est « moi, j'ai rien à cacher, donc allez-y, hein, vous pouvez donner mon nom, ça ne me pose aucun problème », ou au contraire, des gens qui ont envie d'avoir leur nom pour obtenir une forme de reconnaissance. Il faut bien réfléchir au fait que le résultat de la recherche peut être d'une part violent pour les personnes, d'autre part problématique. Alors, violent parce que les personnes auprès desquelles on enquête souvent pensent que ce qu'elles disent est sur le mode du témoignage, alors que quand c'est pris ensuite comme matériau d'analyse, il y a une objectivation qui peut paraître problématique pour les personnes. D'autre part, les personnes ne se rendent pas compte de ce qui va vraiment intéresser le chercheur. Et donc, il y a des éléments du parcours, par exemple, qui vont être dits, mais on va penser que ça n'a pas d'intérêt. Et après, s'ils sont vraiment utilisés, écrits, ça va se mettre à poser problème. Dernier élément là-dessus, il y a aussi parfois d'autres sources de renseignements sur une personne que cette personne n'a pas forcément anticipé. Ça peut être parce que le chercheur a accès à certains dossiers, parce qu'on va aussi interroger des proches ou des personnes qui ont connu l'enquêté. Et à ce moment-là, le problème se repose. Si on désanonymise dans un premier temps, on désanonymise aussi les autres sources d'informations, et donc ça peut poser problème. Donc sur toutes ces questions, il me semble que la conclusion, c'est de dire que l'idée qui pourrait sembler simple et qui est souvent imposée par les comités, qui est de dire « il faut un consentement éclairé », ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'on n'est jamais vraiment éclairé, ni de la part du chercheur, ni de la part de la personne interrogée, sur ce qu'on va pouvoir faire, pouvoir construire à partir de la relation d'enquête. Donc je vais passer un petit peu pour pas être trop long, et je vais directement en arriver à la conclusion. Il me semble que sur ces questions d'anonymisation et désanonymisation, il faut pas avoir des règles standards, mais il faut avoir une réflexion collective qui aille le plus loin possible, notamment parce que cette réflexion collective, elle peut faciliter les choses, ou en tout cas amener à faire une meilleure négociation au moment où on noue la relation d'enquête. Et il me semble que c'est un moment très important, c'est-à-dire que c'est au moment de la négociation avec les gens que beaucoup de choses se jouent, et c'est là qu'on peut un peu se coincer et après être devant des problèmes insurmontables. Au moment de la négociation d'un entretien, si, comme on en a l'habitude, parce qu'on a lu un manuel ou deux, on dit « vous inquiétez pas, ce sera anonyme », après, on peut être vraiment très embêté parce qu'on ne sait plus quoi faire de cette promesse, on ne peut pas la tenir, et on est vraiment coincé. Si on dit à l'inverse « ne vous inquiétez pas, c'est vous qui déciderez, vous me direz ce que vous voulez qu'on dise, si vous voulez garder votre nom ou pas », là aussi, on ne pourra pas tenir sa parole. Donc, il me semble que c'est important qu'il y ait toute cette réflexion pour qu'au moment de la négociation des entretiens et tout au long de la relation d'enquête, on soit sur des positions assez souples. On soit à la fois capable parfois de dire aux gens vous savez, on va essayer de respecter l'anonymat, mais sur certains points, ça va être vraiment difficile. Ou alors qu'on soit aussi capable de dire dans ce qu'on va écrire, on vous tiendra au courant de ce qui sera publié. Par contre, il y aura aussi des choses peut-être auxquelles vous ne pourrez pas avoir accès. On pourra vous demander votre retour sur certains éléments, mais on ne pourra pas toujours prendre en compte votre point de vue. Donc voilà, il me semble que si on pose les choses de façon à la fois précise et souple au moment de la négociation, on règle déjà un certain nombre de problèmes. Et puis, tout dernier point, et je m'arrête, il me semble que sur ces questions-là, on aurait besoin d'institutions collectives plus fortes qui émanent des sciences sociales, qui posent des problèmes propres aux sciences historiques et sociales, pas seulement des problèmes qui viennent des sciences naturelles, des sciences médicales, et qui permettent aux chercheurs en sciences sociales de ne plus percevoir justement ces comités d'éthique uniquement comme des obstacles, de pouvoir avoir du poids par rapport aux exigences qui sont posées, et aussi qu'ils puissent protéger les données de façon à ce que, par exemple, on puisse changer certains éléments, mais qu'à un endroit, on ait les données brutes que d'autres chercheurs puissent consulter. Donc il me semble que c'est pour ça que c'est vraiment une question qui doit être posée collectivement et qui se pose pour l'instant de façon trop individuelle. Merci.
Merci Jean-Sébastien Edelima.